Alléluia, gloire au Seigneur. Ça y est, c'est venu. Voilà. Merci à vous, à chacun et à chacune d'entre vous, d'être venus en cet après-midi dans ce lieu où nous sommes dans la présence du Seigneur Jésus. Et cela, je pense que vous l'avez compris au travers des chants qui ont été interprétés et puis au travers de la prière, de ce que nous avons déjà entendu. Et nous sommes heureux de nous retrouver dans la présence du Seigneur Jésus. Nous savons que là où le Seigneur se tient, le miracle peut s'accomplir. Et quiconque s'approche du Seigneur avec un cœur sincère et véritable recevra de la part de Dieu en Jésus-Christ la bénédiction dont il a besoin. Nous allons bien sûr ouvrir la parole de Dieu. Nous sommes venus aussi pour cela, pour entendre la parole de Dieu. Que Dieu la conduise par le moyen de son Saint-Esprit. Puissions-nous avoir des cœurs ouverts et attentifs à la parole de Dieu qui sera annoncée en cet après-midi. Et que dans sa grâce, le Seigneur accompagne sa parole par, comme il est écrit, des signes, des prodiges et des miracles. Car Dieu est un Dieu de miracles. Je ne sais pas si vous serez de mon avis et de l'avis de la parole de Dieu, mais dans les vies individuelles ou collectives, familiales, nous avons parfois ou nous connaissons parfois des situations difficiles à laquelle nous ne pouvons pas toujours répondre et trouver la solution. Mais je suis heureux de vous dire cet après-midi, en toute simplicité et en toute vérité, que Dieu a toutes les solutions possibles. Il suffit seulement de lui faire confiance. Sans chercher à comprendre et à calculer, je vous le dis à l'avance, mais simplement à croire qu'il peut tout. Amen. Et quand on croit que Dieu peut tout, ça change toute une vie. Ne dites pas tous « Alléluia ». Autrement, je vais croire que je vais avoir ou que j'ai affaire à des nouveaux. Est-ce que nous croyons que Dieu peut tout ? Bon, alors on va lire un texte dans l'Ancien Testament et on va voir que Dieu, c'est le Dieu qui agit dans l'impossible. Alléluia. Alors on va aller chercher ce texte dans le deuxième livre des Rois au chapitre 6 et au verset 1er. Deuxième livre des Rois, si vous avez la Bible en entier, l'Ancien Testament, vous trouverez cela. Et bonne nouvelle pour vous aider à trouver facilement, s'il y a le deuxième livre des Rois, il y a le premier. Et quand vous avez trouvé le premier livre des Rois, vous allez au second et vous trouverez. Chapitre 6 et verset 1er. Voici ce qui est écrit. Les fils de prophètes dirent à Élisée, « Voici l'endroit où nous habitons en ta présence est trop réduit pour nous. » Vous avez tous trouvé ? Non, parce que comme j'entends des petits murmures, peut-être qu'il y a quelqu'un qui cherche. Donc je continue. « Allons donc jusqu'au Jourdain, nous y prendrons chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez !» L'un d'eux dit, « Consens donc à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il alla donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent des arbres. Comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Il lui montra l'endroit. Alors Élisée, coupa un morceau de bois, le jeta au même endroit et fit surnager le fer. Puis il dit, « Reprends-le !» L'autre tendit la main et le prit. Et moi j'ajoute là, « Gloire à Dieu !» C'est quand même un miracle extraordinaire. Mais avant d'en arriver et de parler du miracle, Nous allons regarder ensemble un petit peu les circonstances dans lesquelles s'est passé cet épisode. Au début de la lecture, vous avez lu comme moi que les fils des prophètes, on va dire des étudiants de la Bible, sont venus auprès d'Élisée, le prophète, pour rester avec lui et pour recevoir enseignement sur Dieu et tout ce qui comporte Dieu. Donc il était là, il leur parlait, il leur enseignait ce qu'ils devaient savoir et connaître. Et c'est une belle chose de voir qu'il est écrit que le lieu qu'ils occupaient était devenu trop petit. Entre parenthèses, je souhaite à l'église d'Annecy que ce lieu devienne trop petit. Il y en a quatre. Que Dieu bénisse votre foi. Hein ? Mais Dieu est celui qui fait grandir les églises. Amen. Hein ? Alors, ce lieu est devenu trop petit et ils émirent le désir, et ils l'ont fait connaître au prophète Élisée, de construire un endroit plus spacieux, plus grand. Et il est vrai que quand un lieu devient trop petit, c'est une chose légitime que d'aspirer à quelque chose de plus grand. D'ailleurs, Élisée ne s'est pas opposé à cette pensée, à cette idée, et il donna l'autorisation à ses étudiants, disons-le, d'aller et d'agrandir. Mais je voudrais faire simplement une accommodation parce que le désir de grandir ou de s'agrandir, eh bien, ça touche toutes les populations. Vous n'êtes pas de mon avis là. Si. C'est une bonne idée de vouloir s'agrandir. Je dirais que pour nous aujourd'hui, nous avons tous, du moins je le souhaite, le désir d'évoluer. Qui dit évoluer, dit vouloir s'agrandir ou grandir. Et dans la réflexion, j'ai pensé à ceci. On veut s'agrandir ou grandir dans les études pour avoir un bon emploi. Ou du moins essayer d'avoir un bon emploi. Avoir aussi la pensée d'une croissance dans l'évolution de l'emploi. Je ne me trompe pas jusque-là. Hein ? On part au bas de l'échelle, enfin, quand je travaillais, on m'a fait comprendre que je partais au bas de l'échelle et qu'il fallait que je gravisse les échelons pour arriver à ce à quoi j'aspirais. Donc c'est légitime de vouloir s'agrandir ou grandir. J'ai noté aussi que le désir de fonder une famille, hein, ça aussi c'est légitime, ne plus être seul, mais en couple, légitime. Avec des enfants, de manière naturelle. C'est légitime, c'est normal. En fait, nous sommes nés presque pour ça. Ne soyez pas choqués par ce que je vais dire, mais quand on lit le premier chapitre de la Genèse, Dieu créa l'homme, il créa la femme, afin qu'il se multiplie. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et je me permets de préciser, je l'ai déjà dit, mais je le redis, d'une manière naturelle. Et je referme là la parenthèse. J'ai pensé aussi qu'on évolue et on veut évoluer, on veut grandir, on prend de l'expansion. Et l'exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est celui-ci, je le résume, c'est de passer du vélo à une voiture confortable. Non ? Mais quand vous examinez ça de près, ça s'appelle de l'évolution. Oui ou non ? Eh oui, alors c'est un désir que nous avons. Hein ? Qui n'a jamais eu envie à 18 ans de dire, ou qui n'a jamais dit même avant, je voudrais mon permis pour avoir une voiture. Hein ? C'est dans la pensée de l'évolution, c'est aussi dans une certaine pensée de liberté, d'aller, de venir. Et puis j'ai noté celui-ci, mais vous pourriez continuer la liste. Hein. Passer du studio à une belle villa. Ah, je le souhaite à tout le monde, hein. Une belle villa. Tout ça, c'est légitime. Mais je vais vous poser une simple question. On peut penser à tout cela, on peut arriver à tout cela, on peut le faire par ses propres moyens et par ses propres connaissances, mais personne ici, même pas moi, ne peut dire ce que j'ai acquis maintenant, je ne le perdrai jamais. Oui ou non? Il y a des gens qui ont évolué, il y a des gens qui ont établi des entreprises et du jour au lendemain, il y a un mot qui est arrivé, faillite. En quelques jours, en quelques mois, ils ont tout perdu. Et allons jusqu'à la fin de la pensée, certains dans ces situations tristes ont vu leur ménage, leur famille se diviser, se casser, partir chacun de leur côté et finalement mettre fin à ses jours. Voyez-vous ? Parce que ces amis-là sont tombés dans une situation difficile. Nous ne voulons pas en savoir les raisons. Ils sont tombés dans une situation difficile. Ils ont peut-être pensé, jusqu'à ce jour, je m'en suis tiré, je m'en tirerai encore une fois. Mais là, il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu une aide qui est arrivée. Tout s'est écroulé comme un château château de paille, si vous me permettez l'expression. Ils se sont retrouvés sans rien, déprimés, et ils ont terminé d'une façon terrible. Pourtant, je le dis encore maintenant, avant d'arriver à la conclusion, il y a toujours un moyen pour en sortir. Et ce moyen, il n'est pas connu de tous. Et pourtant, il existe depuis 2000 ans. Et même avant. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste depuis 2000 ans environ aujourd'hui par le nom et par l'homme qu'il a donné au monde pour qu'il soit sauvé, pour qu'il soit béni, pour que l'amour de Dieu et la puissance interviennent dans les difficultés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Nous n'avons pas le temps, mais combien d'exemples pourrions-nous donner où des gens déprimés, où des gens au bout du rouleau, où des gens malades sont venus à l'écoute de l'Évangile, ont cru à l'Évangile, ont cru à la puissance de Dieu manifestée par le nom de Jésus, et ils ont été relevés. Et la vie a continué. Alléluia! Dieu est celui qui intervient dans les moments les plus difficiles. Et il apporte la victoire dont nous avons besoin. Vous savez, la Bible nous dit que les hommes sont souvent placés devant des impossibilités parce qu'ils n'ont pas la réponse. Mais combien il est bon de lire dans les évangiles ces paroles de Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Si cet après-midi vous êtes placé dans une situation critique, difficile, le Seigneur a la réponse. Si vous croyez que vous, c'est impossible de vous en sortir, Dieu a la réponse. Alléluia. Mais il faut saisir la réponse de Dieu, il faut saisir l'amour de Dieu, il faut saisir la main de Dieu. Il faut lui faire... C'est un mot qui revient souvent dans les évangiles et dans l'Ancien Testament. Il faut lui faire confiance. Alléluia. Pourquoi ? Parce que tout est possible à celui qui croit. Amen. Il est écrit encore ceci dans l'évangile, Luc 1, 37, il dit « Car pour Dieu rien n'est impossible et aucune de ses promesses ne demeure sans accomplissement. » Ce qui revient à dire, et c'est écrit toujours dans la parole de Dieu, ce que Dieu promet, il a la force, il a la puissance pour accomplir sa promesse. Alléluia. Et Dieu qui est un Dieu d'amour et qui vous aime cet après-midi, et qui vous aimera encore demain, mais demain, nous ne savons pas de quoi cela sera fait, mais en tout cas aujourd'hui, soyez sûrs et certains que Dieu veut vous sortir de vos problèmes et de vos difficultés. Dieu veut vous accorder sa paix, Dieu veut vous accorder tout ce dont vous avez besoin parce qu'il est un Dieu d'amour et qu'il vous appelle à connaître une vie nouvelle, placée sous son regard, placée sous sa main puissante et merveilleuse. Voyez-vous, dans ce texte, nous on connaît la fin, puisqu'on a lu, il partait pour s'agrandir, Et ils partaient joyeux pour agrandir. Ils ne connaissaient pas la fin, nous on la connaît. Mais qui aurait pensé qu'en effectuant les travaux, un de ces jeunes hommes allait connaître un moment difficile. Un de ces garçons qui était plein d'ardeur, certainement plein de force, coupait gaiement un arbre pour en faire une poutre et établir cette poutre sur les autres pour obtenir l'habitation dont il désirait. Et personne n'aurait pensé que le fer de la hache qu'il avait tomberait dans le Jourdain. Non, c'est arrivé subitement. Et si je vous prends cet exemple, c'est pour vous dire que, et je ne le souhaite pas, mais soyons entre guillemets réalistes, à savoir que pour nous, pour vous comme pour moi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout va bien, mais nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. On peut faire des projets, mais ça ne veut pas dire que les projets que nous avons établis vont se réaliser. Parce qu'il va y avoir un grain de sable qui va se mettre là et empêcher tous les projets et mettre de la complication. Et ce garçon, il était joyeux. Mais quand le fer de hache a quitté le bois de sa hache et qu'il a entendu un plouf derrière lui, en un moment, il a compris que pour lui, c'était un problème, un gros problème. Parce que pour nous, si jamais ça nous arrivait, hein, on est en train de travailler au bord d'une rivière ou d'un étang, ce que vous voulez. Vous êtes en train de travailler avec la hache, vous y allez gaiement parce que vous avez un projet d'agrandir, de faire quelque chose. Et puis d'un seul coup, vous dites « Oh, il est bien léger mon bois !» et vous entendez « Plouf !» Nous aujourd'hui, dans notre monde moderne, on ne va pas crier « Ah, il est tombé dans l'eau !» On va dire « Tiens, il est tombé dans l'eau, bon, ce n'est pas la peine. Hein. » Je prends ma voiture, je vais dans un grand magasin de bricolage, j'achète le fer qui va correspondre au bois de ma l'entrée là, vous voyez, dans le bon calibre, puis je reviens, je me remets à travailler, ni vu ni connu, tranquille. C'est pas ce qu'on fait. Oui, mais de ce temps-là, il n'y avait pas des grands magasins de bricolage. Par contre, vous avez remarqué que ce garçon a dit. Elle était empruntée. Ce qui veut dire que, facile à comprendre, mais je précise, la hache ne lui appartenait pas. Ce qui veut dire que le fer ne lui appartenait pas. Et il était considéré comme perdu, ce fer, car ce fer est tombé dans l'eau du Jourdain. Il faut savoir que l'eau du Jourdain est une eau pas si claire que ça, elle est boueuse. Et que les fonds sont boueux. Ce qui veut dire que quand le fer est tombé, c'était perdu. Parce que le fer s'est certainement enfoncé dans le fond vaseux. Pour ce garçon, c'était un gros problème. Parce que la hache était empruntée et quand les travaux devaient être finis, il devait ramener sa hache dans l'état où il l'avait prise au prêteur. Or, dans ces temps-là, si on n'a ramené pas l'outil ou autre chose prêté, l'emprunteur devenait esclave du prêteur. Vous comprenez maintenant pourquoi il a crié avec de la peine. Je n'y étais pas, mais c'est facile à comprendre. « Ah, mon Seigneur, il est emprunté !» Ça y est, c'est fini, je vais perdre ma liberté. Pour moi, c'est un gros problème, c'est une grosse difficulté. Qui va venir à mon aide? Qui va venir à mon secours? Qui va me permettre d'éviter l'esclavage? Maintenant, je suis seul avec ce problème. Bien qu'il soit entouré. On comprend, quand on connaît un petit peu les us et coutumes, que ce garçon se trouve dans une grande peine et dans une grande difficulté. Mais je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, Dieu a toujours la solution au problème. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Certainement que ce garçon a dû recevoir aussi quelques paroles de consolation. Mais la plus belle parole, c'est celle qu'Élisée va apporter. Élisée est sur les lieux. Alors, remontons un petit peu. Et parmi ce groupe de jeunes gens qui a quitté le lieu trop petit pour aller au lieu trop grand, avec le consentement d'Élisée, allez, leur a-t-il dit, parmi ce groupe de jeunes gens, il y en a eu un qui a été rempli de sagesse. Et sa sagesse se démontre par les paroles qu'il va prononcer. Et il va dire avant de partir, quand le prophète Élisée a dit « Allez », ce garçon va se retourner vers le prophète Élisée et il va lui dire ces quelques et simples mots « Consent à venir avec nous ». Et la réponse du prophète, elle est claire « J'irai ». Et il y est allé. Et là, ça nous montre la sagesse même que tout être humain devrait avoir. Parce que, tout simplement, Jésus est celui qui peut intervenir dans toutes vos situations, bonnes ou mauvaises. Mais Jésus ne viendra et ne consentira à venir avec vous si vous, vous lui demandez. C'est-à-dire, comme ce jeune homme, « Seigneur Jésus, consent à venir dans ma vie. Consent à venir dans mon foyer. Consent à venir et que mon avenir repose uniquement sur ton amour et sur ton nom et sur ta parole. Seigneur, je veux que tu deviennes le maître de ma vie. Je te fais confiance. Quand tout ira bien, vous serez dans la paix. Et quand une situation difficile surviendra, alors vous exposerez votre problème au Seigneur et le Seigneur interviendra. Car en fait, que fait ce jeune homme qui a perdu sa hache quand il va prononcer ces mots « Il était emprunté », le prophète Élisée ne perd pas du temps, il arrive. Et il lui dit « Où est-il tombé ?» Et que fait le jeune homme, sinon exposer son problème, en disant quoi ? Eh bien, en montrant l'endroit où le fer de la hache est tombé. Il est sorti du bois et il est tombé là. Peut-être y avait-il encore quelques, comment vous dire là ? Vous savez, quand on fait tomber, il y a des ondées là, hein, ça fait des cercles hein, sur l'eau. Peut-être y avait-il en reste. Mais le prophète, il a entendu le cri. Et il sait maintenant où est tombé le fer. Et il sait aussi, le prophète, qu'il a la réponse. Ouais. Jésus, qu'est-ce qu'il attend ? Que vous l'invitiez ? Il entend vos cris de détresse. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le Seigneur vous demandera d'exposer votre problème, votre situation, votre maladie, ce qui vous gêne dans votre vie, ce qui vous lie, ce qui vous rend esclave. Il vous demandera le pourquoi. Et vous allez lui exposer, Seigneur, voilà ma situation. Et le Seigneur va vous répondre favorablement, si vous croyez en lui. Oui ou non ? Élisée avait la réponse. Mais on va peut-être dire, ou quelqu'un cet après-midi au milieu de nous, va dire, mais c'est simpliste ça. Parce que la solution, nous l'avons lue ensemble. Élisée va couper un morceau de bois. Alors on ne sait pas la longueur du bois, mais ce n'est pas ça qui importe. Il prend un morceau de bois, il le jette à l'emplacement où le fer est tombé. Vous croyez à la suite ? Vous y croyez parce que vous connaissez l'histoire. Mais demandez à un scientifique qui ne croit en rien, parce qu'il y en a quelques-uns, et lui dire le fer est remonté tout seul, et vous croyez à ces choses-là? C'est des contes pour enfants, ça. Moi, je suis trop dans une connaissance. Mais même des gens qui n'ont pas une grande connaissance, quand ils entendent cette parole de Dieu, ils ont de la difficulté à croire. Et pourtant, le miracle s'est accompli. Oui ou non? Alors maintenant, s'il y a quelqu'un parmi nous qui doute, partout, quand il m'arrive de méditer sur ce texte, je le médite et chaque fois je trouve quelque chose de nouveau, merci Seigneur. Je dis aux gens qui sont dans l'assistance ce soir, en rentrant chez vous, prenez une bassine assez profonde. Mettez de l'eau, prenez un morceau de fer et essayez de le faire surnager par vos paroles. Bon, mettez si vous voulez, allez, un bout de bois dedans. S'il remonte, vous m'appelez. Mais je peux dormir tranquille. Il ne remontera pas. Parce que la loi de la physique fait que le fer est plus lourd que l'eau. Et impossible au fer de remonter à la surface. Et pourtant c'est écrit, et la parole de Dieu c'est la vérité, et le fer surnagea. Il n'avait pas de bouée, il est remonté tout seul comme un grand. Qui peut expliquer ça? Même pas les scientifiques peuvent l'expliquer. Voyez-vous, c'est un miracle extraordinaire. Dieu peut tout. Et maintenant, je vous dirai qu'un miracle, ça ne s'explique pas. Un miracle, ça se croit. Point. Parce que je répète, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est étrange, hein? Non, c'est merveilleux. Alors, comprenez bien cet après-midi, quel que soit votre problème, il peut être résolu en un instant. Car c'est en un instant que le problème a été résolu. Ça a pris quelques minutes, Élisée coupe le bois, jette le bois là où était le fer, et le fer, clouc, remonte. Comme un ballon plein d'air. Pouf! Imaginez la joie de l'homme, du jeune homme, quand Élisée lui dit « Tends le bras et prends-le !» Ah, quelle joie! Oh pauvre, je ne me fais pas dire deux fois, je saisis, je prends, je suis libéré de l'esclavage! Alléluia! Permettez-moi de dire Alléluia! Mais savez-vous que ça peut être votre cas cet après-midi, être libéré de l'esclavage? Être libéré de la maladie, être libéré de problèmes, ça peut être votre cas. Il suffit de croire à l'efficacité du nom de Jésus, il suffit de croire aux promesses de Dieu, il suffit de croire à Dieu lui-même. Non pas de le contester, non pas de le rejeter, non pas de dire nous vous entendrons là-dessus une autre fois, mais de dire Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et le Seigneur agira. Il vous dira, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et vous répondrez, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que je puisse voir ta gloire dans cette situation. J'ai besoin de délivrance. Et j'ai aussi peut-être besoin de pardon. Vous savez, laissez-moi vous dire que ce n'est pas le bois qui a fait le miracle, hein. À la limite, je dirais que ce n'est pas Élisée qui a fait le miracle. Élisée n'a eu que confiance en Dieu. Et Dieu honore toujours la foi. Alors quand le bois a été jeté, la confiance en Dieu a été agissante. Et Dieu lui-même a relevé le fer et l'a monté à la surface. Gloire à Dieu, hein. Le bois. Dans la Bible, le bois est souvent cité. Je ne vais pas tout vous citer, mais vous relirez la parole de Dieu. Le bois est souvent cité, fait partie, par exemple, du tabernacle, etc. Mais je vais prendre, si vous me le permettez, deux exemples. Le premier, c'est pour la libération du peuple de Moïse. Quand Moïse a été envoyé vers le peuple d'Israël, il a été envoyé de par la volonté de Dieu, et Moïse a obéi à cette volonté, mais il n'est pas parti les mains vides. Il est parti, est-il écrit, avec le bâton de Dieu. Vous savez ce bâton qui était d'abord son bâton de berger, et dans lequel Dieu a manifesté sa force et sa toute puissance, pour qu'enfin Moïse obéisse à sa voix et à sa volonté. Eh bien, quand le peuple d'Israël est arrivé au bord de la mer Rouge, je vais vous lire les paroles pour ne pas me tromper, et il nous est dit que Dieu parla à Moïse pour leur donner la liberté vers le pays promis et passer la mer. Il nous est dit ceci, « Quant à toi, Moïse, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites traverseront à pied sec. » Waouh! Alors Moïse obéit, hein, il prend le bâton, il lève le bâton face à la mer, et qu'est-il écrit ensuite? Que pendant toute la nuit, Dieu souffla un vent, et au matin, la mer était coupée en deux. Moïse a eu la foi, et Dieu a honoré la foi. Le bâton n'était que le signe que Dieu était là, présent et tout-puissant. Alléluia. C'est magnifique, non? Là aussi, nous savons que, je suis obligé de souligner cela, que des gens n'y croient pas, les scientifiques, d'autres personnes n'y croient pas. Peut-être avez-vous entendu cela à ce sujet de la mer Rouge, un homme rendait témoignage à une autre personne qui avait une certaine connaissance, et le gars lui dit, par rapport à ce que je viens de citer, le gars lui répond, il lui dit, mais non, c'est pas possible qu'il passe la mer Rouge, puis c'est pas possible qu'il passe à pied sec, c'est toujours, même si l'eau se retire, c'est toujours mouillé, c'est toujours vaseux, il y a toujours un peu d'eau. Et le pasteur qui a écouté cela longuement et patiemment, lui a regardé, lui dit, quand même, il y a eu un miracle. Allez, oui, mais non. Là, vous contestez un petit peu, mais il y a eu un miracle. Il faudra que vous m'expliquiez combien les Égyptiens qui sont passés par le même chemin se sont noyés avec 5 cm d'eau. Hein, ça fait réfléchir, ça. On est souvent amené dans certaines situations pour les personnes qui ne connaissent pas l'Évangile ou la parole de Dieu, à contester Dieu et ses miracles. Cet après-midi, ami, qui que tu sois, ne conteste pas les miracles de Dieu, mais crois-les, ne conteste pas la puissance de Dieu, mais crois-la. Et tu verras le miracle dans ta vie. Tu verras la transformation. Oh, Moïse a fait une autre expérience aussi, que je vous cite. Un jour, le peuple d'Israël avait soif. Dieu lui dit, avance-toi près du rocher et frappe le rocher et l'eau sortira. Mais Moïse, il a fait, il a pris son bâton, il est intervenu, et que s'est-il passé? Le rocher a laissé couler de l'eau en abondance. Et tout le peuple bu, même le bétail a bu, tout le monde a bu, tout le monde a été désaltéré. Quelle grâce, et permettez-moi de dire, quelle puissance de Dieu. Là aussi, j'ai lu quelques écrits à ce sujet disant, par certaines personnes bien pensantes, que le rocher était situé dans une situation où il y avait une source d'eau qui était cachée, et quand Moïse est arrivé, eh bien le rocher s'est ouvert, et il n'y a pas eu de miracle, c'est l'eau qui a surgi tout simplement. Facile de contester. Plus difficile de croire. Parce que nous avons une intelligence. Et notre intelligence n'accepte pas automatiquement de rentrer dans le domaine de la foi. Par contre, je répète, sciemment, si tu crois, Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras le miracle de Dieu. Tu verras tout changer dans ta vie. Tu verras les situations difficiles s'enlever, s'effacer, terminer. Dieu va répondre. Et Dieu va t'établir. Et Dieu va te permettre de t'agrandir. Parce que quand il prend nos vies en main, il est celui, dit-il, qu'il bénit au-delà de ce qu'on peut penser et espérer. Alléluia. Eh oui. Alors je voudrais vous dire, en arrivant à la conclusion de ce message, qu'un jour, un bout de bois fut dressé. Eh oui. Je répète sciemment que le bois, c'est pas lui qui fait le miracle. Dieu est intervenu pour ce garçon. Dieu est intervenu pour le passage. Il y aurait d'autres exemples, hein, vous lirez la Bible. Pour le passage de la mer Rouge, Dieu est intervenu pour ce rocher qui a laissé passer l'eau. Pourtant, il y avait le bois. Mais le bois, c'est la manifestation de la puissance et de l'amour de Dieu. Le bois ne guérit pas. Le bois ne sauve pas. Le bois ne transforme pas la vie. Et le bois dont je vais parler en terminant, c'est le bois qui a été élevé sur le mont Golgotha. Et sur le mont Golgotha, il y a eu ce bois qui a été dressé, mais dessus ce bois, qui est la croix, il y avait un homme. Et cet homme avait un nom. C'était Jésus, le Fils de Dieu, qui était là pour accomplir toute la volonté de Dieu. Et quand on lit la vie de Jésus et les évangiles, on s'aperçoit que Jésus a accepté la volonté de Dieu. Et on s'aperçoit aussi que si Dieu a donné son Fils, a permis que son Fils soit élevé sur cette croix et qu'il meure sur cette croix, peut-être allez-vous être étonné pour certains, mais la Bible dit que c'est un acte d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le bois, là, de Jésus, cette croix, ce n'est pas un moyen de délivrance, c'est un moyen de supplice. Tous ceux qui étaient mis en croix, c'était un moyen de supplice. La mort est lente et les souffrances sont énormes pour ceux qui sont placés sur la croix. Parce que quand vous regardez l'image de la croix, vous vous apercevrez certainement comme moi que Jésus, il a été crucifié entre deux brigands qui étaient eux aussi chacun sur une croix. C'était le moyen de supplice de faire mourir lentement. Et la différence qu'il y avait entre Jésus et les deux brigands, c'est que les brigands étaient attachés et que Jésus a été cloué. Imaginez les souffrances de Jésus. Imaginez que Jésus est mort lentement en perdant son sang et d'après certaines analyses, par asphyxie, parce que sa cage thoracique appuyait sur les poumons et il n'avait plus possibilité de respirer. La Bible mentionne que quand il parlait, il se forçait sur ses pieds de se relever pour pouvoir exprimer les 7 paroles qu'il a exprimées sur la croix pour nous faire comprendre la volonté de Dieu et l'amour dont il manifestait à notre égard en terminant par cette phrase « Tout est accompli ». Et quand je lis le « Tout est accompli », je vous le livre à vous, amis, pour la première fois aujourd'hui, Jésus est en train de dire « Je suis mort pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. J'ai été brisé dans mon corps pour toi. Je souffre pour toi. J'ai versé mon sang pour toi. Afin que, comme le dit le prophète Ésaïe au chapitre 53, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris et c'est par son sang que nous sommes lavés et purifiés de tout péché. Notre frère, tout à l'heure, en faisant chanter, a très justement parlé lorsqu'il a dit que nous sommes tous des pécheurs et que nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Mais ce pardon, nous ne l'obtiendrons que si nous reconnaissons que Jésus est mort pour nous au calvaire. On nous parle, on nous fait des démonstrations de croix, mais ne croyez pas que la croix, c'est pour vous rappeler que vous êtes simplement des chrétiens. Mais celui qui sauve, celui qui transforme, celui qui guérit, celui qui manifeste la puissance de Dieu, celui qui rétablit toutes choses, celui qui peut vous rétablir en tout, vous restaurer en tout, a un nom, et c'est Jésus. Jésus n'est pas mort, est mort sur la croix, mais 3 jours après, il est ressuscité. Et aujourd'hui, il est vivant dans les cieux, et il intercède pour nous, il intercède pour toi, pour que tu reçoives la bénédiction dont tu as besoin, mais cette bénédiction, tu ne pourras la recevoir que si tu crois en Dieu et si tu crois en Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Et si tu crois, vous connaissez la suite, tu verras la gloire de Dieu. Non seulement dans ce temps présent, mais aussi dans l'éternité. Alléluia. Car, mes amis, tout à l'heure, je vous disais simplement que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et il est vrai que l'homme, en plaçant sa foi en Dieu, va réaliser que l'impossible devient possible. Et pourtant, il y a une chose qui est impossible à l'homme de faire. Et j'ai quelque chose à vous dire à la femme aussi. D'après vous, c'est quoi? Tiens, petite question avant de terminer. Bien. Si j'avais un choupa choups, je t'aurais donné un choupa choups. C'est le gamin qui a donné la réponse. Il est impossible aux êtres humains de se sauver eux-mêmes. Vous ne trouvez pas que cette phrase, elle est lourde de conséquences quand on l'analyse? Il est impossible, dit Jésus, aux hommes de se... Pierre avait posé la question, Pierre avait dit, et qui peut être sauvé? Et c'est là que Jésus a répondu, il est impossible aux hommes de se sauver eux-mêmes, mais sous-entendu, bien sûr, à Dieu, tout est possible, c'est-à-dire que Dieu peut sauver toutes les créatures. Alléluia. Et il a fait une démonstration en nous donnant Jésus, je viens de l'expliquer sur le bois de la croix. C'est lui qui est le réconciliateur entre Dieu et les hommes. Si je veux être sauvé, je dois croire en Jésus. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, tu seras condamné. Qui a dit ça? Jésus, parole de Dieu vivante. Nous sommes tous des pécheurs. Même si parfois, il y a des gens qui se prennent et qui se disent être les propres justes. Je suis navré s'il y a quelqu'un qui se prend pour un propre juste cet après-midi, mais je suis obligé de dire ce que dit la parole de Dieu. Il n'y a pas même un juste, pas même un seul. Le seul qui a été juste sur la terre a un nom, c'est Jésus. Tous les autres sont des pécheurs. Je suis un pécheur, mais un pécheur pardonné. Parce que j'ai cru en Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et je ne suis pas le seul cet après-midi. Aujourd'hui, Jésus a la solution à tous tes problèmes. Mais permettez-moi en terminant de vous dire, avant de penser à vos problèmes terrestres, avant de penser à vos problèmes familiaux, n'est-il pas plus sérieux de vous pencher sur votre problème éternel? Car si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu ne seras pas sauvé. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus. Ne te crois pas juste, ne crois pas meilleur que tous. Tu es un pécheur. Ne crois pas que par les œuvres que tu peux accomplir, tu seras sauvé. Elle peut avoir une incidence favorable, mais ce n'est pas les œuvres qui sauvent, c'est la foi en Jésus-Christ. Les œuvres ne sont que l'accomplissement de la foi. Parce que la foi sans les œuvres, c'est rien. Ami, qui que tu sois, donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Fais-lui confiance pour l'avenir terrestre, mais place-toi entre ses bras pour un avenir éternel. J'aime l'image de la croix, et je pense que d'autres ici doivent l'aimer aussi, parce que quand je regarde la croix, quand je pense à la croix, quand je lis les textes sur la crucifixion de Jésus, je me vois un sauveur. Mais qu'est-ce que je vois dans ce sauveur ? Quelqu'un qui m'a aimé. Et pour pas que j'en doute, alors je regarde de plus près et je vois un homme qui me tend ses bras d'amour. Il a les bras ouverts pour accueillir le pécheur et pour lui pardonner. Oh, il y a une belle image, et je termine avec cet apôtre Étienne qui annonçait l'évangile, qui parlait de Jésus, qui a remonté dans les écrits bibliques à la foule qui l'écoutait. Et pour résultat, les gens qui l'ont écouté ont pris des cailloux et ont commencé à le lapider parce qu'il parlait avec amour de la personne de Jésus-Christ, le seul sauveur. Combien ça a dû être quelque part difficile pour Étienne. Mais voilà que le Seigneur vient pour le réconforter. Étienne est là, continuant à parler, même sous le jet des pierres. Il parle et subitement, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit le ciel s'ouvrir. Et Jésus, qui est debout, auprès du trône de Dieu. Et Jésus tendait les bras vers Étienne pour l'accueillir dans sa gloire. Et quand on voit cette image, il est écrit, et Étienne s'endormit. Il ne sentait plus rien. Il était déjà dans la présence de Dieu. Alléluia. Quel bel avenir pour ceux et celles qui donnent leur cœur à Jésus-Christ, qui s'engagent à l'aimer, à le suivre et à le servir. Ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des contes que nous vous racontons. C'est la vérité. C'est la vérité biblique. Maintenant, avant de prier, laissez-moi vous dire, maintenant c'est à chacun de vous de réagir. De réagir. Et peut-être de prendre la même position que ce garçon, les mêmes paroles que ce garçon a dites à Élisée, mais vous les direz au Seigneur Jésus. Et vous pourrez lui dire, Seigneur Jésus, consens à venir avec moi. Je te reconnais comme mon maître et mon sauveur. Je veux t'appartenir entièrement. Consens. Non pas pour que tu me bénisses uniquement sur les biens de cette terre ou les biens pour ma vie, mais Seigneur, je te dis consens de venir avec moi afin que je puisse, par ta grâce, arriver en ta présence dans la vie éternelle. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Fais de moi un homme meilleur, une femme meilleure, un jeune meilleur. Transforme-moi à ta gloire et donne-moi de régner avec toi au jour où tu apparaîtras. Car un jour Jésus reviendra et il sauvera ceux qui lui ont dit « Consens à venir avec moi ». Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Te remercions Seigneur pour ta parole. Parce qu'elle est la vérité.